Monsieur le procureur général, à la nouvelle qu'une domestique portant le prénom d'Hélène était poursuivie à Rennes pour crime d'empoisonnement, la rumeur publique à Pontivy s'est vivement préoccupée de faits anciens qui, dans le temps, ont paru étranges, sans avoir donné lieu à aucune information judiciaire et auxquels s'est trouvé mêlé le nom d'une domestique portant aussi le prénom d'Hélène et servant alors dans cet arrondissement. On a remarqué que dans plusieurs familles qui avaient pris cette fille à leur gage, une ou plusieurs personnes ont succombé d'une manière violente et l'on s'est demandé s'il n'y avait pas identité entre elle et la domestique qui est aujourd'hui inculpée. Je me suis empressé de demander des renseignements à monsieur le juge de paix de Locminé, où elle a servi un certain nombre d'années. Il n'a pu découvrir le nom de famille de cette fille, mais on connaît son lieu de naissance. Il sera facile, en présence des documents, de décider s'il y a identité. Je vous transmettrai, dans ce cas, d'autres renseignements sur des faits également anciens, que je m'abstiens jusqu'ici de vérifier. On dit que la fille Hélène, qui a été domestique à Locminé, a servi aussi à Hennebon, chez monsieur Cali, à Guerne, chez le desservant, à Pontivy, chez monsieur Joanneau, et que dans toutes ces maisons, son séjour a été signalé d'une manière fatale pour ceux qui les habitaient. Je suis avec respect, monsieur le procureur général, votre très humble serviteur, le procureur de la République.
Hélène Gigado, c'est une fille de cultivateur qui naît dans le Morbihan en 1803, tout début du 19e. Elle va grandir en tant que cuisinière dans les presbytères, ce sont ses tantes qui vont lui apprendre le métier. Et jusqu'à ses 30 ans, elle ne fait aucune vague. C'est-à-dire qu'il ne se passe rien d'anormal, en tout cas on pense qu'il ne se passe rien d'anormal. Et c'est qu'à ses 30 ans qu'on va lui connaître une première série de crimes au presbytère de Guerne dans le Morbihan. Et ensuite on va la suivre pendant toutes ces années. Et à chaque fois qu'on va retrouver sa trace, il va y avoir des défaits étranges, des gens qui tombent malades. Certains en meurent, certains survivent à l'empoisonnement. Et jusqu'en 1851, on la retrouve à Rennes, et elle va se faire cette fois-ci arrêter. À l'automne 1850, elle arrive dans une maison sur le quai Chateaubriand à Rennes, chez Maître Bidard qui est avocat à la cour. Et elle va empoisonner en à peine un an 3 domestiques qui travaillent avec elle. Et au bout de la troisième, Maître Bidard se pose des questions et soupçonne fortement Hélène Gigado. Et à la mort de la dernière victime qui s'appelle Rosalie Sarrazin, Maître Bidard va faire marcher ses contacts et va demander au juge de déposer un mandat de dépôt pour pouvoir arrêter Hélène parce qu'il y a trop de soupçons. Et à ce moment-là, on la soupçonne uniquement des 3 dernières victimes du cas Chateaubriand. On n'a aucune idée de tout ce qu'on vient d'évoquer. Et c'est que lors de l'enquête en fait, qui va être menée qu'on va apprendre en fait, que ce n'est pas uniquement ces 3 dernières victimes, mais qu'elle c'est une vraie tueuse en série qui a tué depuis 1833. Au moment du procès, elle est accusée de 36 empoisonnements, dont 23 ont succombé. C'est-à-dire que toutes n'en sont pas décédées. Après, c'est une liste qui n'est pas fiable, qui n'est pas, certainement pas exhaustive. Et aujourd'hui, on n'arrivera jamais à faire une vraie liste de toutes ces victimes-là. Chaque historien a sa propre liste, même si on sait tous qu'elles ne sont pas fiables à 100%. On peut se remettre dans le contexte 19e. Par exemple, pour certains de ces meurtres, on va se dire qu'il y a une épidémie, tout simplement. Notamment le choléra qui présente les mêmes symptômes que l'empoisonnement à l'arsenic. Donc souvent, ça ne va pas plus loin. Ensuite, dès qu'il y a peut-être un peu de soupçon sur elle, elle va s'en aller, tout simplement. À l'époque, vous changez de village, on ne vous retrouve pas forcément. C'est assez simple. Les autopsies ne sont pas régulières, c'est uniquement sous autorisation de la famille. Et puis surtout, c'est une femme qui est très pratiquante, très croyante, qui prend soin avec un dévouement sans faille de ses victimes une fois qu'elles sont empoisonnées. Et donc, un peu au-dessus de tout soupçon. Voilà. Donc elle s'en sort en fait comme ça pendant presque 20 ans. Il faut savoir que l'instruction du procès d'Hélène Gigado, c'est une grosse boîte. À peu près 12 cm d'épaisseur. Et dans cette grosse boîte, il y a 400 pièces environ de documents qui sont liés au procès d'Hélène Gigado et qui ont été numérisés. l'année dernière pour pouvoir être mises en ligne, qui sont déjà disponibles et qui veut peut aller sur le site des archives départementales d'Ille-et-Vilaine et retrouver les 400 pièces du procès et les découvrir comme il le souhaite.
Transcription du premier interrogatoire subi par Hélène Jégado après son arrestation. L'an 1851, le 1er juillet, devant nous Hippolyte Vanier, juge d'instruction de l'arrondissement de Rennes, département d'Ille-et-Vilaine, l'individu ci-après qui a été interrogé comme suit. Quels sont vos noms, prénoms, âge, profession, lieu de naissance, de résidence et de domicile? Quelle est votre position de famille? Vos parents ont-ils été repris de justice? Savez-vous lire et écrire?
Jégado Hélène, âgée d'environ 40 ans, cuisinière, demeurant à Rennes chez M. Bidard, quai Chateaubriand, née à arrondissement Plouhinec, fille de feu Jean et de feu Anne Lescouette. Mes parents n'ont pas été repris de justice, non mariés, je sais un peu lire, je ne sais pas écrire.
À quelle époque est rentrée au service de votre maître Rosalie Sarrazin?
Il y aura samedi prochain 6 semaines qu'elle y est entrée.
N'étiez-vous pas en mauvaise intelligence avec cette fille?
Non, au contraire, je l'aimais beaucoup. Aussi, j'ai eu bien soin d'elle. Je conviens que pendant 2 jours, nous avons eu ensemble de petites discussions, mais c'était peu de choses. 2 jours après, M. Bidard me dit « Puisque vous ne pouvez pas vous arranger ensemble, vous sortirez de chez moi. » Malgré cela, je ne cherchais pas de place car il était trop tard pour que j'en trouve une. Une 15aine de jours avant la Saint-Jean, je lui demandais s'il me garderait. Il me dit que oui et que je lui ferais bien de la peine si je le quittais.
N'est-ce pas vous qui l'avez constamment soigné pendant sa maladie?
Oui, c'est toujours moi qui la soignais. Sa mère venait aussi lui donner du soin, mais c'était plutôt à moi qu'à sa mère qu'elle demandait ce dont elle avait besoin.
De quoi se plaignait-elle pendant qu'elle a été malade?
Elle s'est toujours plainte d'avoir mal au cœur. Elle éprouvait des coliques. Ce qui lui a fait le plus de mal, c'est la première médecine qu'elle a prise, que le médecin lui avait ordonnée et dont elle a vomi le premier et le second verre. Elle disait « Oh mon Dieu, que cela me fait mal au cœur !»
N'a-t-elle pas éprouvé souvent d'autres vomissements pendant sa maladie?
Oui, elle a vomi presque toujours pendant sa maladie. La première fois qu'elle avait vomi, c'était un soir, avant qu'elle eût consulté le médecin, après avoir mangé de la soupe, 2 côtelettes et 2 cuillerées de petits pois. Ces vomissements-là se sont prolongés une partie de la nuit.
Avez-vous remarqué si elle vomissait plus fréquemment après avoir pris certaines boissons?
Dans le commencement, elle vomissait surtout quand elle buvait du thé ou de l'eau sucrée. Mais après qu'on lui eut mis des sangsues, elle vomissait quelquefois, même après, lorsqu'elle prenait du sirop de groseille, qui lui passait bien d'abord.
Ne se plaignait-elle pas d'éprouver comme une sensation de brûlure dans l'estomac?
Pas dans le commencement, mais à la fin, après qu'elle avait vomi, elle disait que cela la brûlait dans la poitrine. C'était surtout depuis l'application des sangsues.
Alors, le document qui est sous la vitrine, là, c'est le registre d'écrou. On retrouve le nom d'Hélène Jégado. Donc, le registre d'écrou, c'est en fait le registre des entrées et des sorties en prison. Donc, quand elle va être arrêtée le 1er juillet 1851, forcément, elle va avoir sa petite case de rempli dans le registre. Et on la retrouve. Donc, on voit bien Hélène. Alors, c'est marqué Jégado avec un I. Parce que à ce moment-là, quand on lui demande comment elle s'appelle, elle dit Jégado. Donc, elle a un fort accent breton et gallo. Donc phonétiquement, on retranscrit comme ça, c'est qu'après, une fois qu'on a retrouvé son acte de naissance, que dans les documents d'archives, on va voir apparaître son vrai nom de famille, Jégado avec un E. En tous les cas, c'est hyper intéressant pour nous, puisqu'ils vont faire une description physique très précise d'Hélène Jégado, ce qu'ils font pour tous les détenus, au cas où eh bien, il y aurait une évasion, par exemple, pour les retrouver. Donc on sait plein de choses, on sait qu'elle a les cheveux châtains, qu'elle a les yeux gris, qu'elle fait 1m55, des informations qui sont précieuses pour nous sur son allure physique. Et puis également la description de ses vêtements, puisque le but du jeu, c'est de lui rendre, quand elle sortira, pour le coup, elle ne sortira pas, mais de pouvoir lui rendre à cette occasion. Et du coup, avec ces registres de prison, qui sont des documents judiciaires purs et durs, on peut faire toute une histoire de la mode, tout simplement, sur les régions, sur les localités, grâce à ces registres-là. Le document qui est sous la vitrine ici, c'est... Le Conciliateur, qui est le grand journal régional de l'époque, c'est un peu l'Ouest France du 19e, si on peut dire, et qui va retracer jour après jour ce qui se passe pendant le procès. Qui témoigne, comment réagit Hélène Jégado, etc. Tout ce qui se passe, donc de nombreuses colonnes, hein, jour après jour, ça prend bien une double page à chaque fois. Et ce qui est intéressant avec le Conciliateur, c'est qu'il sait que l'affaire Hélène Jégadeau va plaire au public, que le public va être très attentif à ce qu'il se passe pendant ces jours-là. Et du coup, du début du procès, le 6 décembre 1852, à sa fin, une semaine après, il va augmenter ses prix de vente. Et c'est assez intéressant parce que ça nous montre, ça nous prouve que l'intérêt était immense pour cette affaire et que du coup, les journaux en ont profité pour vendre plus cher leurs exemplaires. D'habitude, les tueurs en série, même si le terme n'existe pas à son époque, ont un profil type de victime. Pour Hélène Jégadeau, c'est pas le cas. Elle va tuer des hommes, des femmes, des vieillards, des enfants, des bébés, des gens de la même condition sociale qu'elle, une condition sociale plus élevée. Il n'y a absolument aucune règle. La seule règle qu'elle s'impose, c'est le mode opératoire, puisqu'elle empoisonne toutes ses victimes à l'arsenic. Aucune idée de comment elle s'est procuré l'arsenic. Elle n'a jamais avoué s'être procurée de l'arsenic. Et surtout, il n'y a aucune trace, lors des perquisitions à son domicile, d'arsenic dans ses affaires ou sur elle. Donc aujourd'hui, on n'a aucune preuve tangible qu'elle a déjà été en contact avec de l'arsenic. Les victimes, en tout cas celles qui ont été tuées en Ille-et-Vilaine, puisque pour le Morbihan, la prescription s'impose, donc elle ne sera pas jugée pour ces crimes-là, mais celles qui ont été tuées en Ille-et-Vilaine vont être autopsiées. Donc celles qui sont déjà enterrées vont être exhumées. Et à l'époque, c'est tout nouveau, on peut désormais savoir si les personnes sont empoisonnées à l'arsenic grâce à une nouvelle machine qui arrive à ce moment-là. Et effectivement, toutes les victimes d'Ille-et-Vilaine vont présenter un empoisonnement à l'arsenic après autopsie des corps.
N'étiez-vous pas chez M. Bidard quand une autre de ses domestiques est morte chez lui ?
Oui. C'était au mois de novembre dernier. Il y avait 3 semaines que j'étais chez M. Bidard.
Cette fille n'est-elle pas morte de la même maladie que Rosalie Sarrazin ?
J'ai entendu dire des médecins à M. Bidard qu'elle était morte d'un abcès qui avait crevé de son côté et que c'était le résultat d'une chute qu'elle avait faite à la campagne. Un dimanche soir, elle fut prise de vomissements après avoir mangé du boudin. Elle continua de vomir tous les jours suivants, jusqu'au mercredi, et elle mourut le lendemain.
N'est-ce pas vous qui avez à plusieurs reprises donné à ces deux domestiques des boissons qui leur ont causé ces vomissements et qui ont déterminé la mort ?
Non ! Je n'ai jamais eu une pareille pensée. Je sais bien que les médecins ont cette opinion-là de moi, mais c'est bien faux. Je le soutiendrai jusqu'à ma mort. Je suis franche, et si j'avais fait une chose semblable, je l'avouerais.
Je dois vous faire observer qu'avant peu, nous connaîtrons d'une manière certaine la cause de la mort de Rosalie Sarrazin, que nous saurons si elle est morte empoisonnée.
Je dirai toujours que j'en suis bien innocente et que je n'ai rien mis dans ce qu'elle a bu et dans ce qu'elle a mangé pour la faire mourir. J'ai même gardé presque toujours ce que je lui donnais. Et je disais même en plaisantant devant elle et devant sa mère, « Ma pauvre Rosalie, s'il y a du poison dans les remèdes, je serai toujours empoisonnée la première. » Dans le commencement, le médecin lui avait ordonné pour faire cesser les vomissements de l'eau gazeuse avec du sirop de groseille. La première fois, elle la trouva bonne. La seconde, elle la trouva mauvaise et n'en voulut pas boire davantage. Alors je bus ce qui restait dans mon verre. Si j'avais mis quelque chose dedans, croyez-vous que je l'eusse ainsi bu ?
C'est la première fois qu'une femme apparaît, avec autant de morts. Aujourd'hui, ça marque les esprits. Mais il faut se rendre compte qu'à l'époque, ça a marqué énormément les esprits et que ce nom a traversé les âges. C'est-à-dire que la Jégadeau, c'était la criminelle en puissance, et ce qui était gênant dans cette affaire, c'est qu'elle n'a jamais vraiment avoué, et on ne sait pas pourquoi elle a assassiné autant de personnes. C'est un vrai mystère qui a traversé les âges depuis son arrestation. Et chaque fois qu'il y avait une grande criminelle, on a trouvé dans la presse en 1862 une personne qui avait empoisonné aussi en Ille-et-Vilaine d'autres familles, et la presse titrait en 1862, donc bien après sa mort, une nouvelle Jégadeau. Donc vous voyez, c'était vraiment, c'est resté vraiment un nom attaché aux crimes et à des crimes dont on n'a pas encore percé les mystères. Bon, il y a plusieurs théories, il y a plusieurs auteurs, il y a Jean Tellet qui a écrit un roman sur cette affaire, il y a eu un film, il y a eu une bande dessinée Arsenic, il y en aura une autre l'année prochaine chez Futuropolis, avec deux auteurs, comment dire, belges. C'est un mystère finalement qui n'est même plus national, qui devient international, et c'est toujours un questionnement. Et on a dit que le prêtre avait reçu finalement, dans le fourgon qu'il emmenait à l'échafaud, avait reçu une confession. C'est même pas sûr. Il fallait que la société un petit peu récupère ce cas. Il fallait trouver une explication raisonnable. Et je ne sais pas si vraiment elle a été donnée.